La lecture ce matin, c'est de Philippiens, chapitre 3, verset 12, au chapitre 4, verset 1. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attaché au Seigneur.
Attention, question pour un champion. Je suis une des activités sportives préférées des Français. On estime même qu'un Français sur trois me pratique, tout du moins occasionnellement. Et si vous allez... Non, c'est pas le foot. Et si vous allez vous promener près d'un lac ou dans un bois, vous rencontrerez forcément quelques-uns de mes adeptes. Je suis... La course à pied. Je suis la course à pied. Oui, beaucoup de monde pratique la course à pied. Personnellement, avant, je détestais cela. Cette idée de courir sans même un ballon devant moi pour me faire avancer. Mais, poussé par l'exemple de ma femme, en fait, je m'y suis mis petit à petit. Et je suis bien obligé aujourd'hui d'avouer que j'y prends dorénavant un certain plaisir, voire même un plaisir certain. Parce que oui, courir, c'est vraiment bien, en fait. Et courir, c'est aussi le sujet dont nous parle l'apôtre Paul dans le texte que nous venons de lire. Mais lui, vous l'avez noté, bien sûr, il nous parle en fait d'une autre course. Une course un peu particulière. La course de la vie chrétienne. Et cette course-là aussi, elle est vraiment bien. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude de la lettre aux Philippiens et nous arrivons à présent à l'avant-dernier volet de cette épître. Un volet où Paul, donc, vient nous encourager à courir. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, dit Paul, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Courir et courir vers le but, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et alors, première question, courir vers le but, d'accord, mais de quel but parlons-nous en fait? Après quoi sommes-nous appelés à courir dans notre vie chrétienne? Eh bien, cette première réponse est donnée dans le verset, vous la voyez, le but, c'est ni plus ni moins la perfection. Je ne suis pas encore parvenu au but, dit Paul, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je cours après cela. Et nous l'avons vu en parcourant toute cette lettre, et Laura nous l'a rappelé en introduction, puisque pour le chrétien, tout est appelé à être centré sur Jésus, nous pourrions donc préciser et dire que la perfection dont il nous est parlé ici, c'est en fait une connaissance parfaite de Jésus-Christ et une ressemblance parfaite à Jésus-Christ. Oui, voici notre but sur cette terre, connaître Jésus et ressembler à Jésus de manière parfaite. Mais alors, me direz-vous, l'Écriture dans son ensemble ne nous montre-t-elle pas qu'il y a quelque chose d'irréalisable là-dedans ? Oui, effectivement. Nous sommes appelés à courir explicitement vers un but dont nous savons que nous ne l'atteindrons pas parfaitement ici-bas. C'est un peu étrange, en fait. Pourtant, ces deux vérités, a priori contradictoires, viennent, me semble-t-il, nous enseigner deux réalités fondamentales. Et ce sont ces deux réalités que j'aimerais développer avec vous ce matin. Premièrement, nous allons parler de notre course, et plus précisément même, de notre façon de courir. Car oui, en mettant ainsi, sans ambiguïté face à nous, cette perfection comme objectif, Dieu vient nous montrer avec force l'état d'esprit avec lequel nous devons mener notre course, sans relâche et jusqu'au bout. Et puis ensuite, nous allons parler également de notre but, car en plaçant aussi devant nos yeux le constat de notre incapacité à atteindre cette perfection aujourd'hui, mais en nous promettant en même temps qu'elle viendra au jour de Jésus-Christ, Dieu nous offre ici une profonde source de motivation pour garder le bon cap et persévérer dans notre course. La course et le but. Voilà les deux points que nous allons détailler aujourd'hui. Nous parlons d'abord de notre course. « Non, frère, dit Paul, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. Et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but. » Voici, en fait, ici, un verset où Paul nous explique comment lui, il avance dans sa vie de foi. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je lis ça, il y a un mot qui me vient de suite à l'esprit. C'est le mot « détermination ». Oui, Paul poursuit la connaissance de Jésus et la ressemblance à Jésus avec la plus implacable des déterminations. Essayons de comprendre, si vous voulez bien. Connaissez-vous Johan Diniz ? Si ce n'est pas le cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose de nous pencher quelques instants sur lui pour nous aider dans notre compréhension. Johan Diniz, un athlète français, un marcheur, effectivement, champion du 50 km marche. Et le 19 août 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, cet homme a vécu quelque chose qui est resté dans les mémoires. Je vous raconte. Ce jour-là, Johan est en tête de la course, bien décidé à décrocher la médaille d'or. Mais soudainement, il est pris de problèmes gastriques intenses. Et il est contraint de marquer plusieurs arrêts qui sapent petit à petit son avance sur ses concurrents. Pourtant, malgré la douleur, Johan ne va pas abandonner. Mais il va continuer la course jusqu'au bout, s'effondrant parfois même sur la piste, mais se relevant toujours jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour la petite histoire, il terminera à la 8e position, moins de 6 minutes après le premier, et il perdra connaissance dès son arrivée. Chers amis, voilà ce qu'est la détermination. Alors, notre comparaison s'arrêtera là. car il n'est pas question de douleur gastrique ou de perte de connaissance avec la course de la foi. Mais on retiendra néanmoins la volonté de cet homme, l'acharnement même qu'il met à aller là où il est appelé à aller. Et Paul, un athlète de la foi, Paul ne dit pas autre chose. Paul vit sa course avec la même détermination. « J'oublie complètement tout ce qui est derrière », dit-il d'abord. C'est-à-dire, j'oublie mes vieilles façons de vivre qui ne plaisent pas à Dieu. Je m'en débarrasse sans état d'âme. Et si elles s'accrochent, eh bien alors je lutte contre elles, sans pitié, et je les repousse par tous les moyens. Et puis même, je vais jusqu'à oublier mes victoires passées et mes progrès déjà faits dans la foi. Juste de peur que sinon la satisfaction ne me gagne et qu'elle ne me ralentisse dans ma course. Alors j'oublie tout cela pour me focaliser uniquement sur ce qui me reste encore à parcourir, sur ce qui me reste encore à accomplir pour mieux connaître Jésus et pour mieux lui ressembler. Et j'y consacre toute mon énergie, car Jésus-Christ s'est saisi de moi et je veux donc vivre à présent vers lui de toutes mes forces. Voici comment Paul court. Et nous alors ? L'application de ce texte est évidente. Et nous alors ? Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de notre course ? Et qu'en est-il de l'énergie que nous mettons dans notre vie à mieux connaître Jésus et à mieux lui ressembler? Si Jésus s'est saisi de nous, nous avançons tous dans cette direction. Mais avec quelle énergie le faisons-nous? Comme Paul ou de manière beaucoup plus timide? Oui, sommes-nous des Johann Diniz de la course de la foi? Moi, ça m'a fait penser à mes cours de sport quand j'étais en seconde. On faisait de l'endurance, et donc je vous ai dit, je détestais ça. Mais du coup, ce que je faisais, quand on courait, c'est qu'à chaque fois que je savais que ma prof ne me voyait plus, eh bien je m'arrêtais et je poursuivais en marchant. Juste pour faire le moins d'efforts possible. Bien sûr, je vous rassure, je redémarrais aussitôt que j'entrais dans son champ de vision. Mais ceci est aussi, croyons-le, un comportement possible avec la foi. Oui, parfois, on se dorlote dans notre course de la foi. On fait le moins d'efforts possible. Et on essaie peut-être même de louvoyer ici ou là. En cherchant, par exemple, à atténuer la réalité de certains de nos travers. Parce qu'on n'a pas envie simplement de faire le nécessaire pour les affronter. Ou alors, en cherchant à diminuer la réalité de nos manques d'amour envers un tel ou un tel. Parce qu'on ne veut pas, là non plus, faire les efforts qui coûtent pour aimer ceux que nous avons le plus de mal à aimer. Et ainsi de suite. Alors, on se dorlote, on se trouve des excuses, on se dit qu'au fond, c'est pas si grave. Ou encore, autre problème, je me dis aussi qu'on est parfois tellement occupé dans la vie à courir d'autres courses qu'on n'arrive plus simplement à donner une vraie place à celle de la foi. Et il y a sans doute ici, particulièrement à notre époque, un vrai défi pour nous afin de remédier à cela. L'accepterons-nous ? Oui, accepterons-nous, par exemple, d'être moins consacrés à notre course au travail pour être davantage disponibles pour Jésus-Christ et la course de notre foi? Quitte à perdre en reconnaissance, en intérêt ou en salaire. Ou encore, accepterons-nous d'être moins performants dans notre course à la réussite sociale? Belle maison, belle garde-robe, belles vacances, et ainsi de suite. pour être davantage concentré sur celle de notre ressemblance à Jésus. Même si pour cela, nous devons accepter de fonctionner en décalage par rapport à ceux qui nous entourent. Ou enfin, accepterons-nous d'être moins préoccupés par notre course au loisir, au désir et au plaisir pour gagner à celle d'une meilleure connaissance du Christ, en donnant plus de place dans nos quotidiens à la prière et à la lecture de la Bible, mais au détriment d'autres choses. Et ainsi de suite. Et alors, nous pourrions peut-être trouver qu'une telle vision de la vie chrétienne est très radicale. Et certes, elle l'est, radicale. Mais pourtant, elle est aussi la vie chrétienne vers laquelle nous sommes tous appelés à tendre. Paul dit, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, eh bien, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est plutôt clair. Mais alors du coup, puisque vivre ainsi, on le sait, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel pour nous. Puisque c'est souvent un défi, et parfois même un combat. À cause de cela, Paul vient nous encourager. Oui, pour ne pas glisser vers des vies qui ne courent plus vraiment, ou au contraire, pour ne pas glisser vers des vies qui courent dans toutes les autres directions, Paul vient résolument nous motiver. Et comment le fait-il? Eh bien donc, il le fait en nous rappelant simplement notre but, l'arrivée de notre course. C'est le deuxième point de notre réflexion ce matin. On lit dans le texte, juste après qu'il ait stigmatisé avec dureté le comportement de ceux qui s'attachent aux choses de la terre, à leurs désirs, mais aussi à leurs mérites. Juste après cela, Paul dit, mais quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, c'est de cette manière que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Quelle est notre meilleure source de motivation pour poursuivre notre course vers le but? Eh bien, c'est justement notre espérance du but. C'est notre attente ardente de la venue de Jésus-Christ, quand la perfection deviendra réelle. Oui, c'est la perspective de la ligne d'arrivée qui a poussé Johann Diniz à continuer envers et contre tout. Et de la même manière, c'est la contemplation de notre avenir qui va venir nous donner la plus grande des déterminations pour notre présent. Aussi, sachant cela, j'avais juste à cœur ce matin que l'on partage ensemble quelques-unes des vérités concernant ce but qui nous attend, afin qu'elles puissent vraiment renouveler notre énergie et notre désir de continuer sans relâche. Et je vous propose donc de jeter 3 regards sur ces promesses éternelles que Dieu fait dans la Bible à celui qui lui appartient. 3 regards qui vont aller crescendo, mais 3 regards à vraiment nous emparer dès aujourd'hui pour notre course. Premier regard. Un jour, Dieu créera pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous pourrons alors jouir et profiter de ce monde parfait pour l'éternité. La terre est belle, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais pour ma part, il y a des lieux qui me font vraiment rêver sur cette terre. Et parfois, on en parle avec Laura et on se dit qu'on aimerait bien les voir. Moi, par exemple, j'aimerais tellement découvrir l'immensité des paysages du Canada. Ou encore, la splendeur des chutes Victoria. Laura, quant à elle, aimerait goûter aux plages paradisiaques des îles tahitiennes. Et alors, peut-être qu'un jour, je l'espère, nous partirons à la découverte d'un de ces lieux. Mais pour autant, nous savons que bon nombre d'entre eux resteront inconnus pour nous. Car il y a tellement d'autres choses à faire ici-bas que la course à la découverte du monde. Mais du coup, sachant cela, nous éprouvons parfois comme une légère frustration, vous voyez, face à tous ces endroits que nous ne verrons pas. Mais quand cela arrive, j'aime alors toujours répéter la phrase suivante. Cela viendra. Oui, quand on vivra l'éternité, on pourra découvrir et profiter de chacune de ces merveilles que le monde contient, un monde qui sera restauré en plus. Et vous voyez où je veux en venir ? À la vérité suivante. En quoi la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre peut être pour nous une profonde motivation pour courir la bonne course aujourd'hui ? Eh bien, simplement parce qu'elle nous dit que tout ne sera pas fini à notre mort. Et donc, que nous n'avons pas besoin, comme tant de nos contemporains, de chercher à profiter au maximum de tout ce que la vie peut nous offrir, au détriment de notre recherche de Dieu. Oui, je crois qu'il y a ici un profond encouragement pour notre course. Non pas pour ne profiter de rien aujourd'hui, je ne dis pas cela non plus, car il y a aussi une place dès ici-bas pour goûter aux prémices du ciel. Mais un profond encouragement juste pour remettre les choses à leur bonne place et les bonnes priorités au bon endroit. Je peux courir la course prioritaire de la connaissance et de la ressemblance à Jésus, sans crainte de ce à quoi je renoncerai pour cela, puisque je sais qu'un jour, tout me sera donné au centuple. Voici pour ce premier point. Et je passe maintenant au deuxième regard. C'est la promesse au retour de Jésus-Christ, de la destruction complète de tout mal et de la disparition complète de toute souffrance. Là, on franchit un palier, je crois. Apocalypse 21:4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Oui, un jour, le mal disparaîtra pour de bon. J'aimerais vous parler, pour illustrer cela, d'une série fantastique que Laura et moi avons regardé récemment à la télé. Les jeunes la connaissent probablement. Elle s'appelle Stranger Things. Et elle est, à mon sens, un remarquable exemple de cette attente de la disparition du mal. Je vous raconte en deux mots. Dans Stranger Things, un portail vers un autre monde a été ouvert. Voilà, c'est ça. C'est un monde très ressemblant au nôtre, comme un miroir en fait. Mais un monde où tout n'est que mort et désolation. Il est peuplé d'êtres mauvais, dont le chef est une sorte d'esprit qui transforme tout en mal. Il est surnommé d'ailleurs le flagelleur mental. Et il est une image très appropriée, je trouve, pour décrire le diable. Mais donc, à travers cette ouverture, le mal et cet esprit viennent s'insinuer dans notre monde et y semer la même mort et la même désolation que dans le leur. L'histoire commence quand, par un concours de circonstances, une bande d'adolescents, tous plus cabossés les uns que les autres, va se retrouver confrontée à ce mal. Et contre toute attente, c'est les années 80, et contre toute attente, ces jeunes garçons et jeune fille inoffensif, eh bien, ils vont entrer en guerre contre lui. Sans concession et par tous les moyens. Même si ce mal les dépasse, et même s'il est bien trop fort pour eux, ils vont le combattre tant qu'ils en auront la force. Un peu comme nous y sommes appelés. Mais parmi eux, au milieu d'eux en fait, se trouve une jeune fille. C'est celle qu'on voit au premier plan. Elle, elle est différente. Elle a une forme d'innocence, de pureté, mais surtout elle possède en elle-même la capacité de vaincre le mal. Alors, au prix de sa propre vie et par amour pour ses amis, elle va y aller et elle va faire ce qu'aucun autre ne pouvait faire. Elle va fermer le portail du mal. J'ai vraiment été happé par cette série. Et pourtant, ce n'est absolument pas le genre que j'aime habituellement. Je ne sais pas d'ailleurs, soit dit en passant, si je dois vous la conseiller, parce qu'elle met parfois vraiment mal à l'aise. Certaines scènes sont dérangeantes. Preuve que le combat contre le mal est un combat sérieux. Mais j'aime particulièrement dans cette histoire ce symbolisme du portail, qui un jour, et ça apparaît bien dans la série, qui un jour se retrouve fermé, libérant ainsi le monde de l'influence et de l'oppression du mal. Et ça fait un changement radical. Un jour, pour nous, ce changement radical sera réel. Et puis j'aime aussi beaucoup ce personnage de la jeune fille, qui est ici, sur certains aspects, comme un type du Christ. Et parce qu'on voit comment dans l'histoire, portée littéralement par sa force, eh bien tous les autres se mettent à la suivre. Alors, malheureusement, le problème dans Stranger Things, succès commercial oblige, c'est qu'à chaque nouvelle saison, le portail se rouvre. Et que la jeune fille, elle doit repartir pour un tour. Mais soyons-en certains, il n'en sera pas de même avec Jésus. Lui, le portail, entre guillemets, il le fermera pour de bon, une bonne fois pour toutes. Il nous en a fait la promesse. Et donc oui, un jour, toutes les injustices de ce monde disparaîtront pour de vrai. Un jour, oui, les enfants ne paieront plus le prix des fautes de leurs parents. Un jour, les femmes ne paieront plus le prix d'hommes incapables de contenir leurs pulsions. Un jour, les pauvres ne paieront plus le prix des désirs toujours plus grands des riches. Ou encore, un jour, les réfugiés ne paieront plus le prix des guerres de certains et de l'indifférence des autres. Oui, un jour, tout ce mal disparaîtra vraiment. Et nous connaîtrons cela. Nous connaîtrons littéralement cette absence de tout ce qui est mauvais dans la vie. Et plus encore même, je dirais, plus encore, un jour, tout mon mal disparaîtra. Toutes mes incohérences, toutes mes insuffisances et toutes mes suffisances, tout ce qui en moi me fait honte, oui, tout cela disparaîtra aussi pour de bon. Mais vous imaginez cela? Ce que l'on ressentira à ce moment-là, quand le péché disparaîtra entièrement de nous. Oh, combien il me tarde ce jour où Jésus fermera la porte au mal et où il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Ce jour où il rendra nos cœurs et nos corps, comme dit le texte, parfaits et glorieux. Et combien donc la perspective ardente de ce jour devrait nous encourager dès maintenant dans notre course à sa suite, et notamment dans notre guerre contre le mal qui persiste en nous et dans le monde. Une nouvelle terre. La fin du mal et de la souffrance. Et je termine avec le troisième regard vers ce qui nous attend. C'est une espérance, en fait, encore bien plus belle que les deux premières. Et pourtant, je n'en dirai que peu de mots, car nous touchons ici, je crois, à des réalités trop grandes pour que nous puissions en mesurer la véritable valeur. Mais voici la promesse de Dieu. Un jour, au retour de Jésus-Christ, nous le verrons. Oui, nous verrons le Dieu de l'infini et nous passerons l'éternité à ses côtés. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Oui, un jour, très bientôt, je verrai enfin mon Sauveur et mon Dieu, et je resterai auprès de lui pour toujours. Mais quelle promesse incroyable! Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, mais alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai, comme Dieu me connaît. Mais quelle espérance incroyable! Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer comment sera votre première rencontre face à face avec Jésus. Moi, j'y pense parfois. Mais qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je tomberai à genoux à ses pieds? Est-ce que je tomberai simplement dans ses bras? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce qui se passera. Mais en tout cas, une chose est certaine. À chaque fois que j'y pense, je n'ai qu'une et une seule envie. Courir maintenant avec toute mon énergie vers ce but ultime. Nous terminons. Voici donc trois regards. La promesse d'une vie sous de nouveaux cieux. La promesse d'une vie affranchie du mal. Et la promesse d'une vie avec Dieu. Voici trois regards, trois promesses qui sont là pour nous pousser avec plus d'envie et plus de détermination à désirer mieux connaître Jésus et mieux lui ressembler. Voici la course de notre vie. Soyons-en convaincus, elle seule a vraiment du sens. Oh, elle n'est pas facile, ça c'est sûr. Si souvent même nous en perdons le fil. Heureusement, Dieu en a conscience, il se souvient que nous sommes poussière et il a compassion de nous. Oui, le Dieu fait homme, celui qui a réellement partagé notre condition humaine. Il peut comprendre et porter nos faiblesses dans la course. Et croyons-le d'ailleurs, c'est lui sans cesse qui, dans cette course, vient nous ravitailler, nous relever et nous soigner. Non, elle n'est pas facile, la course de la foi. Mais qu'elle est belle. Aussi, puissions-nous la courir de toutes nos forces et de tout notre cœur. Et puissions-nous le faire avec persévérance, jusqu'à atteindre enfin ce but qui nous est promis de toute éternité. Que Dieu nous en fasse la grâce et que toute gloire lui soit rendue. Amen.